C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Un de ses premiers grands rôles à l'écran est mythique. Elle a incarné Valérie, cette petite Québécoise qui déshabille, qui a été projetée dans 60 pays dans le monde. Un changement drastique par la suite au lendemain de la grande noirceur parce qu'elle a voulu déconstruire cette image. On s'adresse aujourd'hui à la femme au-delà de l'image, Danielle Ouimet. Parler de l'image de Danielle Ouimet, c'est aussi rappeler qu'elle va au-delà et qu'elle peint avec beaucoup de talent, qu'un de ses plaisirs santé n'est pas seulement de peindre pour se focaliser, mais aussi de l'enseigner aux autres. Entre le jeu et l'animation, Danielle Ouimet est une femme qui a d'abord soigné ses blessures d'amour, mais qui a appris à trouver la santé et prête maintenant à l'illuminer autour d'elle. On la reçoit en forme. Voici Danielle Ouimet.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Danielle Ouimet. Très content que vous soyez avec nous. On sait évidemment que vous êtes une femme de la télé, du cinéma, mais aussi de radio quand même pendant presque 20 ans.
En tout, 55 ans de métier, mais là-dessus, il y a 20 ans de radio.
Et ça vous manque la radio? Vous avez envie de parler aux gens?
Tout me manque.
Ah ouais.
Quand je faisais de la radio, le cinéma me manquait. Quand je faisais du cinéma, c'est la télévision qui me manquait. Bon, c'est tout à fait normal parce que je suis une fille de communication, je suis une fille de création. Et je n'étais bien qu'en studio. Moi, le plus grand bonheur que j'avais, et c'est drôle, c'est toujours le même. Quand j'arrivais, les gens ne savent pas que des fois, on se lève à 5 heures le matin pour aller faire une
émission. On a l'air libre, mais c'est très préparé.
Oui, exactement. Alors, c'était d'arriver pas maquillée, avec les costumes sous le bras, les trucs comme ça, et d'arriver de faire le corridor. Et tu t'en vas vers la salle de maquillage, ça sent le café, il y a un silence total. Et là, tu t'installes tranquillement et la vie prend forme autour de toi jusqu'à ce que ce soit le moment l'apothéose. Quoi, ouais. Les caméras s'allument.
Le moment de rencontrer
Pour moi, c'est un moment tout à fait unique. Et ça, je pense que si j'avais à dire quelle est la chose qui me manque le plus dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, c'est ça.
Ce plaisir-là, on sait que c'est aussi bon pour votre santé, mais il y a toutes sortes de manières pour vous de vous occuper de votre santé, celle
exactement,
des autres aussi.
Ouais.
D'ailleurs, aujourd'hui, à l'émission, on recevra plusieurs chroniqueurs qui vont partir un peu de votre histoire, de vos préoccupations, dans l'espoir que vous allez apprécier. On est content on est content de vous avoir à la radio, en tout cas. C'est sûr que ça s'entend, vous êtes bonne.
Moi, je dis que c'est une des plus belles voix du Québec.
Pour l'instant, j'ai le rhume. Et Monsieur Collier n'arrêtait pas de me dire que j'avais une voix de... sexy.
Ah, oh là là! Très agréable à entendre.
Il disait ça souvent quand même, M. Coallier.
Mais c'était tout un professeur. Oh
oui.
Là là!
Oh, oui, non,
c'était pas facile, M. Coallier.
Non, parce que aujourd'hui, en radio, on a oublié qu'il faut parler français.
Voilà.
On a oublié ça. Il y a des erreurs épouvantables que tout le monde reprenne parce que naturellement, ils se disent ça passe à la radio, donc ils doivent avoir raison. Et les si, les ré, toutes choses comme ça. Les cancons. Et là,
vous croyez encore qu'on doit proposer des émissions qui sont modèles plutôt que reflets?
Écoutez, moi, je pense que tous les réflexes que j'ai, c'est des réflexes de gens qui me l'ont appris et qui savaient de quoi ils parlaient.
Qui avaient de la rigueur.
Qui avaient de la rigueur, exactement. Alors, bon, mais ça s'est rentré tout seul. Et j'ai comme l'impression que si tu as ça sous les yeux, ben ça reste.
Bien sûr.
Ça reste. Alors, et le contraire reste aussi. Tu sais, les lola puis les canqueux qui... J'écoute la radio et je veux pas te donner de nom, mais je dis, il était ministre.
Ah oui, puis, comme par hasard.
Et il a l'émission régulière et il fait des erreurs à toutes les cinq phrases.
Mais bien sûr.
Je m'excuse, moi, je suis pas capable. J'étouffe. Et j'oublie le message à ce moment-là parce que je suis trop attirée vers la recherche du défaut.
C'est le théâtre qui vous a fait, Danielle Ouimet, ou c'est, la communication?
Je ne saurais pas quoi vous répondre là-dessus. Je crois que c'est la curiosité qui m'a faite. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où j'ai voulu faire ce métier-là, tout tout ce que je pouvais toucher en rapport avec ces métiers-là m'a animée. Mais dans tous les domaines, mais vous savez, il y a des tas de choses que les gens ne savent pas de moi, entre autres l'ébénisterie. Je fais des meubles. Je sais équarrir, je sais faire des tas de choses avec mes mains.
Mais ça, c'est particulier quand même, parce que vous avez beaucoup de métiers dans la lumière, du cinéma à la télé, en passant par la radio. D'ailleurs, on fait presque une émission blablabla aujourd'hui. Mais cette femme-là qui est seule, qui n'est pas à la rencontre du public, qui peaufine des choses comme la peinture, l'ébénisterie.
Ouais.
Elle est importante.
Je fais des gâteaux, si vous devriez voir mes gâteaux.
Oh non, mais je les ai vus! Tant que ça sentait.
C'est vraiment comme des chapeaux de la reine d'Angleterre, ces gâteaux.
Des décorations
incroyables.
C'est
des œuvres d'art.
Ben oui, j'adore ça parce que c'est des œuvres d'art. On fait des fleurs en sucre qu'on fait sécher longtemps à l'avance, et des décorations, des découpes. Écoutez, puis il faut remonter ça avec. En mouillant les superpositions pour qu'elles tiennent. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vous savez, ce métier-là, c'est fait pour les autres. Enfin, pour moi, pour la communication vers les autres. Mais quand vient le temps de communiquer avec moi, c'est dans le silence que ça se fait. Et c'est ça qui est essentiel. Se retrouver chez moi en disant, tiens, je vais faire quelque chose que pour moi, je trouve que c'est très sain. C'est très sain.
À la rigueur, ça vous énergise pour
exactement,
faire le reste.
Exactement. Ouais. Moi, je suis très heureuse quand j'ai fait un gâteau, puis que je dis, tu sais, puis des fois, je le fais, je ne sais pas pour qui. Puis je vais voir la voisine, puis je lui donne. Ou alors, je passe...
Oui, éventuellement, c'est fait pour être offert, c'est ça.
Exactement.
Le gâteau ou j'allais dire, le tableau aussi. Hein.
Les tableaux... c'est différent, les tableaux. Voyez-vous? Il y a les tableaux que je fais pour moi. À ceux-là, on n'y touchera jamais.
Ouais.
Mais par contre, quand j'en fais un et je sais que c'est pour le public, j'y suis pas attachée. Je travaille en fonction à ce que la personne soit contente et que ce soit parfait pour la personne qui va l'accueillir, mais je ne m'y attache pas. Parce que sinon, je deviens... Non, il y a des toiles qui sont chez moi que jamais, je sais que mon fils les aura, ma petite-fille les aura, ma famille les auront, mais pas je mettrai ça. Ça m'est arrivé. Une fois, ma première exposition, j'avais une toile que j'aimais beaucoup, puis je me suis dit, elle vendra jamais. Eh bien non, c'est la première qui est partie. Et j'étais complètement bouleversée par cette... Mais par contre, j'ai eu un très beau cadeau. C'est une femme qui est venue me voir après, puis elle m'a dit, mon fils voulait me l'offrir pour Noël, mais je l'aimais tellement, j'en pleurais. Il m'a dit qu'il me la donnait pour Noël. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, voici mon adresse, n'importe quand vous voulez venir la voir, vous êtes bienvenue. Alors moi, j'ai dit, OK, ça va, c'est tombé dans la bonne famille.
C'est ça, perdre un tableau, gagner une amie, ouais, c'est quand même heureux.
Non, mais j'étais très contente de ça.
Il y a une grande richesse dans ce parcours-là, plus de 50 ans de métier.
55, en fait.
Et... la persistance de Valérie vous dérange, nous dérange aussi, hein, parce qu'on est devenu féministe avec le temps.
Oui, mais pas moi.
Non? Ah non? Ah, ça, c'est intéressant.
Non, pas moi, parce que moi, je le suis depuis toujours.
Oui, c'est ça, donc aussi, c'est notre ADN.
Non, mais moi...
Puis à l'époque, est-ce que c'était un geste d'émancipation?
Pas du tout. C'était un geste pour sortir de chez ma famille, de chez moi. J'avais besoin d'argent, j'avais un enfant, je voulais aller en appartement, m'occuper de mon fils, et puis bon, je voulais travailler dans le domaine, puis ça s'est présenté, je l'ai fait. Mais au fur et à mesure, bien sûr, j'ai pu constater... Parce que ce film-là se faisait, écoutez, le matin en se levant, là.
Ouais.
Littéralement, là, le matin en se levant, on prenait notre texte, on disait, est-ce qu'on va dire ça, est-ce qu'on dira pas ça? Il y avait une trame.
C'est l'artisanal,
mais on...
de l'époque.
Oui, c'est ça. La fille du maquillage faisait... La fille qui me servait au restaurant. Le gars qui faisait le son faisait un client à un moment donné parce qu'il nous manquait un comédien. C'était vraiment... C'était n'importe quoi. Mais en même temps, c'était une énergie qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des dictates. Tu devrais penser comme si tu devrais faire ça. Écoute, si tu ne fais pas confiance à la personne que tu as à l'intérieur de toi, si tu ne fais pas tes erreurs, il faut faire ces erreurs. Il faut arrêter de se faire dire, c'est comme ça qu'il veut que tu fasses. Il faut faire ces erreurs. Il faut pleurer ces erreurs pour savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Ben, je m'excuse. Le féminisme, je suis une femme, je serai toujours une femme, mais on ne me dira pas comment penser, on ne me dira pas quoi faire. Et je veux, si moi j'ai envie de dire à quelqu'un, je m'impose, sinon je ne le fais pas, ça fait des années que je fais ça. Alors, c'est quoi ce mouvement de tout se mettre ensemble pour dire « je veux quelque chose, puis je vais l'avoir aujourd'hui » parce qu'on est un groupe et un peuple? Mm-hmm. Ben voyons, commence par toi. Mm-hmm. Si t'en es pas convaincu, si t'as besoin d'avoir toujours quelqu'un... C'est sûr qu'il y aura des rébuffades. C'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui va te dire « non, c'est pas ça qu'il faut faire ». C'est sûr qu'il y en a qui va dire « bof, pousse-toi, toi, mm-hmm. avec tes revendications ». Mais si tu ne te tiens pas droite et debout, tu ne seras jamais mm-hmm. féministe.
Est-ce que vous êtes une femme libre? C'est ça que vous revendiquez?
Exactement. Mm-hmm. Ben, bien sûr, bien sûr.
On va regarder votre liberté.
Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer.
Oui, ça, c'est sûr.
Ouais, mais une battante, hein?
Oui. Ah ouais, ouais, ouais.
Battante et libre. Oh, ouais. On va voir comment ça existe dans la vie, puis même comment c'est bon pour la santé.
À 5 heures, quand j'ai fini le bureau, je descends à Casa Pedro. Puis si je suis le moindrement loqué, je me fais payer un souper au Saint-Tropez. Besoin d'un nom de famille, ben, peut toujours prendre mon nom de fille, hein?
Avec Daniel Ouimet, on parle de liberté. Il y a Sophie Stanquet qui est pas très loin.
Benoît Racette.
Et Daniel, quand vous, vous aimez être libre, il faut quand même que vous soyez en forme, que vous puissiez continuer à porter cette liberté-là, faire tout ce que vous voulez faire. Et Dieu sait qu'il y a plein de choses que vous faites. Comment Daniel Ouimet fait pour être en santé?
Ah, ça c'est dur à expliquer parce que je pense que je ne suis pas d'une nature qui m'en fait. Mm-hmm. Et ça c'est très 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 important. J'ai un petit bobo comme là, j'ai le rhume. Ben moi je m'excuse, le rhume, je le méprise. Moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Si, oui, je fais de la fièvre ici, oui, j'ai de la difficulté à avancer, là, oui, bon, ben, Daniel rentre dans paillasse, dort 5, 6, 10, 15 heures.
Oui, les siestes, ça vous fait du bien? Ouais.
Non, je parle de la maladie.
Ah, oh, pardon, je suis désolée.
Va-t'en dans ton lit, lave ton lit après, parce que sinon les microbes sont... vont rester dedans. Mais je méprise la maladie. Je ne lui laisse pas prendre forme. Mm. Bien sûr, ça en prend plus. bien sûr, pour pouvoir la combattre, mais je ne me laisse pas abattre. Et c'est drôle, on dirait qu'elle m'oublie, la maladie, quand je l'oublie, moi. J'ai remarqué ça. Ouais. Combien de fois je suis allée à l'hôpital et j'ai exigé de sortir avant les journées qui étaient prévues.
Parce que la santé, on l'en garde quand on est occupé, quand on a des projets, comme disait une certaine Rosemarie Charest.
Oui, mais je crois que c'est une question de s'écouter soi-même. Est-ce que tu es capable, Daniel, d'y aller? Vas-y. T'es capable, t'es vraiment capable. Est-ce que ça demande un effort? Vas-y, pareil, si tu reculeras, si ça marche pas. Mais si tu peux pas y aller, je m'excuse. Tu t'excuses et tu n'y vas pas. C'est tout. Et c'est toujours comme ça que j'ai réussi à calculer si ça valait la peine de... Et je suis pas une fille à médicaments. Mon
non,
Dieu que j'ai ça.
Vous détestez les médicaments? Est-ce que vous êtes capable d'en prendre?
Un mal de tête, là, ça va me durer une journée avant que je décide de prendre une aspirine. Mais parce que je me dis, bon, mais ça va passer. Ou ben non, bon, mais c'est normal. J'ai mal à la tête parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Puis, ou alors, bon, c'est les sinus. Bon, si c'est les sinus, je vais prendre de l'eau salée. Je vais m'enlever avec de l'eau salée ce que j'ai dans le nez, puis ça va bien aller. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Pourquoi j'ai des sinusites aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Parce qu'à 16 ans, ma mère m'avait amené, parce qu'effectivement, je faisais une sinusite. Et le médecin, je vous jure ce que je vous raconte là. M'avait appuyé au mur, puis m'avait dit « Surtout, bougez pas, sinon je vais arriver dans le cerveau. » Il avait rentré une broche à tricoter dans le fond de mon nez. Ouf. Il a appuyé sur le sinus, qui est un cartilage léger. Il a traversé avec la broche à tricoter le fameux cartilage. Et là, il a mis des médicaments dans la tige qui avait l'air d'une broche à tricoter. Et puis, il est allé nettoyer mon sinus. Mais sauf que les trous ne se sont jamais refermés. Oh. Et donc, j'ai régulièrement des sinusites à cause de ces deux trous-là.
Mais il était où, ce médecin, dans la rue?
Fouillez-moi, c'était une méthode qui s'essayait, puis ils l'ont essayé sur moi.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes, autour des années 50-60, il y a eu beaucoup d'expérimentations.
On enlevait dans ces années-là aussi, on enlevait les dents facilement. Hein,
oui, aussi. Carré,
oui, exactement.
Puis, c'était un débarras. Hein. Il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui portent des dentiers, parce que quand à cette époque-là, on leur a dit, on t'enlève ça, parce que
c'est
moins de troubles pour le reste de la vie.
Mais quand on est comédienne, on ne peut pas faire ça.
Non. Mais alors, et donc, j'ai servi à plusieurs expérimentations. Et puis, bon, j'ai des séquelles de ça. Mais c'est ça. C'est sûr que... Puis je suis souvent opérée, puis vous savez...
Vous avez eu un épisode un peu difficile où, malgré le fait que vous marchez beaucoup, vous faites
j'ai
beaucoup
fait
de sport...
J'ai fait énormément de sport,
Vous avez...
Ouais.
Dû arrêter parce que vous avez.
Oui, et ben, je vais vous le raconter parce que je vois que vous hésitez. Je vais vous le raconter. Je vois que vous ne voulez pas aller au bout. Peut-être c'est trop privé. Non, mais je vais le dire.
Une opération de la hanche.
Oui. Voilà. Mais les deux opérations de la hanche, les deux hanches. En fait, il faut savoir que. On peut avoir des troubles importants si on fait trop de sport aussi. Moi, j'étais une maniaque de sport. Je faisais du ski de fond, du ski nautique. Je faisais du rollerblades. Je faisais du... Mais une journée régulière pour moi, trois fois semaine, c'était courir 2000, enfin à l'époque c'était en 1000, en faisant du jogging. Ensuite, je faisais une heure de gymnastique aérobique et ensuite, je jouais une heure de squash. Ça, c'était trois fois semaine. Mais j'adorais ça. Je me défonçais. J'étais toujours avec des gars parce que je trouvais que c'était plus rapide, plus dur, puis plus...
Plus sportif.
Donc, une vraie de vraie.
Et j'ai fait ça tout le temps. Jusqu'au jour où, effectivement, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les articulations. Et on a décrété qu'il fallait me changer une hanche. Je l'ai fait il y a 5 ans. Et la seconde, c'est maintenant. Mais alors, ce qui est merveilleux, puis qui est bien pour moi, mais qui les gens disent c'est scandaleux, c'est que je suis arrivée le mercredi, on m'a opérée sous épidurale, parce qu'on ne nous endort plus maintenant, pour une opération qui dure 1h30, puis qui vous déboîte la jambe et tout, là. Sous épidurale, on m'a opérée de 8h le matin. À 10h, j'étais déjà sortie de la salle. Le premier jour, je suis restée à l'hôpital. Le lendemain matin, j'étais debout. Et le vendredi matin, midi, j'étais sortie de l'hôpital.
En boitant ou pas? Bonjour.
Non, avec les béquilles.
Avec les béquilles, mais boitant tout de même. Hein?
Débrouille-toi. Alors là, il a fallu que je me fasse à manger. Il a fallu que je fasse tout. Puis,
normalement, vous auriez dû avoir du soutien à domicile, mais bon.
J'en ai eu, mais ils sont venus 3 jours plus tard.
Oui, c'est ça. C'est malheureusement pas en phase avec les besoins.
Vous savez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu te relèves. Il faut se fouetter une fois de temps en temps. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire tout le temps. Là. Il ne faut pas passer sa vie à se fouetter.
Mais ce n'est pas parce que vous avez une volonté de faire ou quelque chose de très fort, parce que quand on vous voit, on sent. Mm-hmm. Vous avez une volonté,
une détermination
ouais. peu commune. Vous ne pensez pas que ce n'est pas le lot de tout le monde?
C'est pas le lot de tout le monde, mais si tout le monde tendait à en avoir un peu plus, il serait tellement plus heureux. Tu sais, il y en a qui me disent tout le temps, moi, je suis pas capable. Ben oui, mais t'es capable. C'est que t'as pas trouvé la façon. Puis je serais... Puis j'ai horreur de dire, tu sais, j'aime pas qu'on me dise comment faire, donc je me sentirais vraiment très malheureuse de dire, ben, tu devrais faire ça comme ça. Voyons donc,
c'est la liberté
c'est pas
encore
à moi. Ben oui, mais c'est pas à moi à raconter. Si tu veux me demander comment moi je fais, je peux te dire comment moi je fais. Mm-hmm. Et je dirais pas que c'est la méthode à appliquer chez toi, parce qu'il y en a qui ont cette force-là, il y en a qui l'ont pas. Mm-hmm. Je veux pas dire que j'en ai de la force, je l'ai faite. J'ai pas le choix. Vous savez, bon, c'est encore un très privé ce que je vais vous raconter, mais il n'y a pas un homme dans ma vie qui m'a payé soit un appartement, une voiture, des cadeaux, bien sûr, mais ils sont tous venus vivre chez moi. Et jamais j'ai demandé à ce que ces gars-là payent la moitié de l'appartement. Mmh. C'est... Puis donc, il fallait que je le fasse.
Oui.
Alors...
D'où ça vous vient, ça, cette nécessité-là de faire les choses par vous-même?
Ma mère.
Sa mère a tout un tempérament.
Oui, ma mère avait une force extraordinaire. Ma mère...
Elle vous a montré beaucoup de choses, hein?
Oui, bien, ma mère était ce qu'elle...
Elle très sévère, par contre.
Très sévère, mais elle voulait être ce que je suis devenue. Et puis, bon,
Elle aurait aimé être actrice
sûr,
ou
mais
communicatrice.
Bien sûr,
ouais.
Mais bien sûr, bien sûr. Mm. Et elle m'a même raconté, parce qu'elle ne racontait pas grand-chose sur elle, mais j'ai même remarqué dernièrement que je ne savais même pas si elle avait des oncles et des tantes. J'ai aucune idée. Mm. Tout d'un coup, j'ai dit, est-ce que ma mère avait des oncles et des tantes? J'ai pas connu cette famille-là, mais on était très, 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 très près. La famille immédiate de ma mère, ma grand-mère, etc., etc. Moi, je m'appelle Loda, comme ma grand-mère. Et ma grand-mère était pareille. Ma grand-mère avait une détermination extraordinaire. Je l'aimais plus que ma mère, de toute façon. Mais ma mère, jusqu'à 30 ans, avait un salon de coiffure à elle, à Sherbrooke. Et les gens venaient... Elle me raconte que Mimi Desté prenait le train pour aller se faire coiffer chez elle.
Ah oui.
Et puis, ma mère me raconte que... quand elle s'est mariée par amour. Jusqu'à la fin, c'était l'amour complet et total. D'ailleurs, elle ne s'est jamais remariée, même si mon père est mort jeune, à 63 ans. Mais jamais elle a baissé les bras lorsqu'il s'agissait de faire quelque chose, d'exiger quelque chose de sa famille. Et elle s'est donné la tâche de faire bien les sacrifices pour qu'on ait tout, nous, comme elle n'avait pas eu parce qu'elle s'était mariée. D'ailleurs, je pense que je me suis mariée à 38 ans uniquement parce que je me suis dit, eh bien, Daniel, si tu le fais pas, tu le feras jamais. Mais dans ma tête à moi, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce que je voyais ma mère... Ça aurait pas été... Ma mère aurait très bien pu être avec mon père sans se marier. Ça aurait été parfait. Elle aurait pu faire des enfants. C'était parfait.
Alors, c'était le modèle idéal. Ouais. Et en même temps, la féministe dont on parlait tout à l'heure, ça, c'était un peu elle, le modèle.
Beaucoup. Elle faisait du ski. J'ai des photos d'elle en ski dans les années 30. Elle est allée à New York en avion. Oubliez ça, là. À cette époque-là, ça n'existait pas. Même moi, elle m'a mis... Comme mon frère est né, enfin, elle devait donner naissance à son quatrième enfant, elle m'a mise dans l'avion chez des amis à New York. À 10 ans, je suis partie seule en avion à New York. Écoutez, ça n'a pas de sens, là. Ça n'existe pas aujourd'hui.
Non,
là.
C'était une femme fantastique, même si elle avait son caractère. Hein.
Ah oui, elle avait un sacré caractère. D'ailleurs, je me suis battue avec elle toute ma vie.
Mais vous continuez de vous battre.
Oh, oui.
C'est parce que vous êtes en santé. Alors,
exact.
On va continuer à en apprendre un peu plus sur votre parcours encore dans quelques instants.
Son parfum, rappelant les fleurs d'or et de chaleur, et les témoignants de son bonheur, sa candeur. Elle sourit à tous les gens qui traverse sa vie, se nourrissant d'instants de synergie, et elle rit. Pourquoi se priver de tous ces beaux moments où le cœur sa sérénité sans exclusivité. Oh, dans ce café, se tenant devant elle une dame si belle, visée rougie, l'empathie se réveille. Allons faire la
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Levez la main, chers amis, mes amis, mes chers amis de femmes qui sont dans la ménopause. Oh là là! C'est-tu un chalet? Ben, consolez-vous, ça va passer, puis il va arriver d'autres choses.
On va tout de suite rejoindre le docteur Barouel, François, qui est en ligne aujourd'hui par studio. Et on va discuter de sujets de santé avec Daniel Ouimet. Préoccupation première, évidemment, c'est, je dis évidemment, parce qu'à un certain âge, les femmes, on passe par là, la préménopause ou la ménopause. Docteur Barouel, au niveau des hormones, est-ce qu'il faut les prendre? Est-ce que c'est dangereux? Plein de questions, mais inévitables.
Les hormones sont substitutives. Le traitement hormonal substitutif est utile à partir du moment où il y a des troubles qu'on appelle climatériques, c'est-à-dire bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, troubles du sommeil, et qu'il y a un risque d'ostéoporose avec des risques de fractures supplémentaires par rapport à d'autres gens. Donc,
C'est ce que disait Clémence dans son...
Alors, donc, c'est ça. C'est quand, quand il y a un risque au niveau de l'ostéoporose, c'est recommandé de prendre des hormones. Mais la question qui tue, est-ce qu'on doit avoir une santé parfaite, être en pleine forme pour éloigner ces chaleurs-là et les effets de la ménopause? Est-ce que, parce qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui ont la ménopause très jeune et d'autres qui l'ont plus tard. Pourquoi ça et pourquoi cette injustice-là, finalement?
Ah oui, ça, c'est vraiment parfaitement injuste, c'est vrai. C'est vrai, mais malheureusement, c'est très peu la nature. Il n'y a pas tellement... C'est souvent, d'ailleurs, un peu familial. Il y a des familles où les femmes n'ont pas de ménopause très tôt, même parfois tard, et puis d'autres où c'est assez frais, c'est assez tôt, et de l'ordre, parfois, de 40 ans, 45 ans. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une question de chance et de malchance. Pour le moment, je ne vois pas, il n'y a pas de... ce sont les femmes plutôt qui ont un certain capital d'ovocytes. Et à partir d'un certain, lorsqu'il en reste un millier environ, la ménopause commence à se manifester.
Oui. Alors ça, c'est ces bouffées de chaleur qui sont extrêmement désagréables. Daniel Wimet, une question pour vous.
Oui, j'ai à vous poser une question. Bon, je rentre dans des choses très privées, mais je vais le dire quand même. Moi, j'ai eu une hystérectomie avec, cependant, on m'a gardé un seul ovaire vers les 40 ans. Et naturellement, mon médecin m'a tout de suite prescrit la pilule. Depuis, je n'ai jamais arrêté, sauf que maintenant, je la prends sporadiquement. En vieillissant, il m'a dit que je pouvais sauter des jours. Mais il m'a vraiment dit que la première chose que ça aiderait à faire, ce serait effectivement pour la peau, la figure, les rides, tout ce qui s'appelle les cheveux, que ce serait exceptionnel et que je devrais la prendre jusqu'à ce que je puisse la tolérer. Mais justement, ce serait quand jusqu'à... ce serait quand tolérer jusqu'à quand?
Mais est-ce que vous la tolérez, là?
Oui, oui, mais bien sûr, je la tolère, bien sûr, je continue. Mais il y en a qui me disent que, bon, j'ai des risques, plus je vieillis, plus j'ai des risques de cancer, plus j'ai des risques de ci, j'ai des risques de ça. Écoutez, je ne sais plus qui croire, finalement.
Ça dépend, en fait, ça dépend de la pilule. Parce que si vous avez une pilule qui est uniquement avec des œstrogènes, ça vous soigne, en effet, particulièrement bien toutes les bouffées de chaleur et tous les effets secondaires qui sont particulièrement désagréables. Mais ça ne vous donnera pas forcément plus de cancer. Hein. On sait que le traitement hormonal substitutif augmente un petit peu le risque du cancer du sein. Et les risques cardiovasculaires. Mais s'il n'y a rien, et s'il y a une surveillance, après tout, il y a encore avant 2014, on disait vous pouvez prendre les THS tant que vous voulez.
Diriez-vous que lorsqu'il y a une historique de cancer dans la famille, cependant, il faut faire attention?
Ça dépend duquel. Ça dépend tout à fait duquel. Parce qu'en fait, on se dit que le cancer du sein, peut-être, c'est pas sûr.
Le cancer du sein, c'est pas sûr? À combien de pourcents le cancer du sein?
À combien de pourcents de quoi?
C'est-à-dire que si la personne ou la mère de la personne qui consulte pour avoir des hormones a eu un cancer, quels sont les risques au niveau du pourcentage que sa fille qui veut prendre des hormones ait le cancer
On raisonne différemment, c'est-à-dire qu'on se dit s'il y a un risque, s'il y a eu déjà un cancer, ça veut dire qu'il va falloir surveiller plus simplement. Et surveiller plus régulièrement. C'est simplement ça. Mais ce n'est pas forcément une contre-indication s'il y a eu un cancer dans la famille. Ça dépend ça dépend aussi de quel rang. Si c'est la grand-mère, si c'est la mère ou si c'est une tante.
Et ça dépend, j'imagine, de la quantité d'ostrogène. C'est-à-dire, il doit y avoir plusieurs dosages.
Les dosages, on les fait... je pense que vous devez le savoir, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que les dosages, on les fait en fonction des effets... au moment où les effets disparaissent, c'est le bon dosage. C'est comme ça qu'on voit les choses. En fait.
Et la question qui tue en terminant, est-ce que les hormones font grossir?
Alors grossir, oui, un petit peu, parce qu'il y a premièrement, il y a une rétention d'eau qui augmente. Donc ça, c'est sûr que ça fait des jambes un peu lourdes. Et d'autre part, il y a aussi une prise de poids. Et là, malheureusement, pour traiter la prise de poids, la meilleure solution, c'est encore de faire un peu de sport ou de diminuer les apports, comme on disait auparavant. Et pour ce qui est de la des jambes lourdes, on peut encore doser, on peut encore modifier le dosage des hormones et ou changer même la manière de la prise, c'est-à-dire soit c'est oral, c'est en comprimé, ou bien alors c'est en gel.
En gel cutané, voilà. Là, c'est ça.
Ouais, c'est ça
y a...
voilà,
et cutané, ça, il y a moins de prise de poids ou ça n'a aucun rapport?
Il semble qu'il y a moins de prise de poids.
Ah, il y a moins de prise de poids.
Et d'autre part, cutané. Il semble qu'il y ait aussi une protection contre le cancer du côlon.
Ah, ah bon, alors donc, ouais, donc ouais. Si je comprends bien, si on vous comprend bien, c'est un peu mieux.
Estrogel, ça s'appelle.
Oui, c'est
estrogel.
Ça, en cutané qu'en prise orale, quoi, en médicament.
Alors, ça dépend des gens. Il y a dans certains cas, les patientes préfèrent prendre les comprimés et ça se passe très bien. Mm-hmm. Mais quand il y a si on peut le faire en gel, c'est quand même c'est mieux. Finalement, c'est mieux. Il y a moins d'effets secondaires en général. De mauvais effets secondaires.
Et, et docteur, quand est-ce qu'il faut vérifier? J'imagine qu'à chaque fois que la personne va chez le gynécologue, une fois par année, pour voir si le dosage est toujours aussi bon, aussi efficace, est-ce qu'il faut régulièrement consulter?
Tous les ans.
Il y a une chose, moi, qui m'étonne. Vous me dites tous les ans, mais je vous pose une dernière petite question parce que je sais qu'il faut bientôt s'en aller. on me dit, enfin, mon gynéco me dit que passé un certain temps, il n'est pas nécessaire de passer, il n'est plus nécessaire de passer un examen chaque année.
Un examen de quoi? Moi, je vous parle juste des effets, de la disparition des effets désagréables.
Un test gynécologique chaque année.
Le test gynécologique chaque année, c'est pas nécessaire, non, c'est certain. Par contre, s'il y a un cancer du sein dans la famille, il vaut peut-être mieux le regarder. Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, et moins on a besoin de le vérifier quand même. C'est vrai.
Ah bon?
Pas tous les ans, en tout cas.
Pas tous les ans. Moi, je le faisais régulièrement, puis mon gynéco me dit, non, cette année, non, tu peux sauter. Alors, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui arrive?
Tout doucement, des angles de système de santé.
Est-ce que je suis si vieille que
mais
ça?
Les femmes vont être contentes d'entendre ça, mais il faut quand même préciser que s'il y a un cancer dans la famille, d'y aller régulièrement. Parce que je veux vraiment apporter cette nuance-là, parce que s'il y a des gens qui...
C'est ça, c'est dû au cas par cas. Toujours
parce que sinon les gens vont dire c'est tellement un moment qu'on n'aime pas passer les femmes qu'on veut bien passer les mois et les années.
Pendant qu'on a beaucoup de plaisir en studio, Dr. Maruel nous avait l'idée là. Il a dit la même chose au cas par cas.
Au cas par cas. Merci Dr. Maruel, on se retrouve un petit peu plus tard.
À tout à l'heure.
C'est aussi bon pour votre santé. Dites-nous en plus sur Facebook en visitant la page Canal M, la radio de Vuzévoix, ou en repérant @canal_M sur Twitter.
Alors, Benoît Racette et Sophie Stanquet, c'est bon pour la santé. On est aujourd'hui avec Daniel Ouimet et puis on continue toujours dans les petits bobos de Daniel.
Oui.
C'est d'abord une femme en forme, pour le dire.
En plus, elle a dit tout à l'heure qu'elle n'aimait pas se plaindre, c'était une dure, une battante même dans la maladie. Par contre, on continue avec les hormones parce que David Savard, naturopathe, est avec nous en studio et il va nous dire qu'il y a d'autres alternatives que les hormones qui sont prescrites par le médecin. Alors, David Savard, quelles sont les alternatives des hormones chimiques? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre au niveau pas des hormones naturelles, mais des produits naturels pour remplacer finalement
les symptômes de la ménopause.
De la ménopause.
C'est une super bonne question. La première chose à savoir, c'est quoi la ménopause? C'est une diminution de l'estrogène et de la progestérone qui se passe surtout entre 45 et 55 ans.
Oui.
Principalement. Donc, de regarder pour supporter l'estrogène et la progestérone, la diminution de ça, on peut considérer certaines plantes, comme par exemple, il y a le gâtillier, qui est une plante à considérer. Ça a un effet au niveau de la progestérone principalement. Donc, ça va aider au niveau de tout ce qui est bouffée de chaleur, baisse de libido, tout ce qui est symptômes de la ménopause. Aussi, on peut considérer le black OH, qui est lacté à grappe noire, tout simplement. numéro 2, qui a un effet un petit peu plus sur l'estrogène. Puis encore là, c'est un petit peu débattu au niveau de la science. On ne sait pas exactement complètement ce que ça fait, mais ça a un effet possiblement sur l'estrogène.
Ça doit être bon pour certaines personnes, parce qu'on est tous différents. Puis pour d'autres, ça ne doit pas marcher, tu sais, parce que ma sœur a essayé plusieurs choses aussi.
Le gâtier, est-ce que c'est... comment on prend ça, le gâtier? C'est des gouttes,
C'est par voie orale. On peut l'avoir en gouttes ou en capsule.
D'accord.
Ouais. Donc, on le prend par voie orale. La troisième chose aussi à considérer, c'est la rhubarbe de Sibérie.
Bon, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
Il y a de la rhubarbe, point, ouais, mais de Sibérie, je ne sais pas la différence.
Avec le voyage, ça peut être heureux pour les rhumatismes.
Le froid qu'on a eu cet hiver, on peut prendre la rhubarbe ici, c'est pas un problème.
Alors, pourquoi la rhubarbe de Sibérie?
Mais c'est moins humide, enfin, bref.
Oui, c'est une bonne question. Pourquoi la rhubarbe de Sibérie? C'est elle qui a été le plus étudiée, je vous dirais, puis c'est elle qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le plus d'effets au niveau des récepteurs d'estrogène. Donc, ça avait un effet vraiment positif au niveau des récepteurs d'estrogène de la femme qui enlevait tous les symptômes de ménopause ou pratiquement tous, surtout les bouffées de chaleur. Ça a un effet très rhubarbe, rapide aussi.
Mais c'est drôle parce que ça se nourrit de la terre, ça, ces plantes-là. Je veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y avait dans la terre? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre là-bas qui fait que...
Alors, il dit, Daniel, que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour les bouffées de chaleur.
Oui, c'est une chose que j'utilise dans ma pratique depuis des années et je vous dirais, sans nécessairement avoir une statistique précise, je vous dirais en haut de 90% de mes clientes répondent très bien à ce produit.
Alors là, comment on en parle? En gélule, comment ça fonctionne, ça, la rhubarbe?
C'est en tablette, normalement.
En tablette, ouais. OK. Et combien de fois par semaine?
C'est à tous les jours, à tous les matins. Le dosage va vraiment d'une femme à l'autre. Ça peut être d'un très bas dosage à un très haut dosage, tout dépendant.
Alors, David Savard, il faut faire attention parce que quand on commence à vouloir prendre ces médicaments-là, qui sont naturels, il faut bien le mentionner, peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments qu'on pourrait prendre. Est-ce qu'il faut préciser quelles sont les interactions et quelles maladies on a et il faudrait pas prendre de la rhubarbe, par exemple, parce qu'on a la haute tension? Est-ce que tout le monde peut prendre...
Est-ce qu'il y a des contre-indications? Ouais, ça va. Il y a une zone très grise à ça, je vous dirais. Principalement, la science dit... Ben, ou les hypothèses au niveau scientifique sont là. Il y a beaucoup de monde qui font des hypothèses comme quoi que... qu'est-ce qui a un effet sur l'estrogène ou si les récepteurs d'estrogène pourraient avoir un effet potentiellement cancérigène. Encore une fois, il n'y a rien qui a été démontré à date au niveau scientifique, donc possiblement que même la rhubarbe, au niveau rhubarbe de Sibérie, le Black Cohosh puis le Vitex qui est le gâtillier, tous ceux-là, il y a des hypothèses de possibles interactions. Encore là, ça reste à prouver.
Mais interaction?
Interaction, on ne parle pas nécessairement d'interaction, c'est plus causer des maladies, comme par exemple le cancer, mais au niveau des interactions, il n'y en a pas.
Bon, ça veut dire que si on prend des médicaments autres pour la haute tension ou le contraire...
Je pense qu'il faut l'essayer, puis on voit qu'il y a vraiment...
Exactement.
Puis être transparent avec son médicin qui nous prescrit les hormones.
Mais ça, c'est important de le dire.
Alors là, il y a une petite question pour... Mais pas une petite question, il n'y a pas de petite question, comme disait mon père. au niveau des ongles, de Danielle Ouimet, elle nous disait...
Fragile.
Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre pour durcir tout ça?
Il y a tellement de choses qu'on peut prendre.
Avant, on prenait des pilules de gélatine. On nous faisait prendre des pilules de gélatine.
C'est vrai, ça a été populaire pendant un petit bout. Puis encore plus que ça, maintenant, on parle beaucoup de minéraux, comme par exemple le zinc. Le zinc, c'est une chose à considérer. Ça a un effet au niveau de la croissance des ongles pour certaines personnes et aussi un gros effet au niveau du système immunitaire et plus. On a aussi la vitamine D.
Moins de rhume, peut-être.
Ça peut aider aussi pour ça.
La vitamine D, c'est ça, la vitamine D.
Mais moi, la vitamine D, j'en prends 2 capsules, 800 IU par jour. Puis regardez, ça n'a pas changé grand-chose.
Est-ce qu'il y a une carence? Est-ce qu'il y a une carence chez Daniel au niveau de quand on a les ongles ou ça n'a rien à voir?
Une possible carence, encore là, ça serait bon d'aller vraiment doser au niveau de qu'est-ce qui manque au niveau du sang. Sanguin, de regarder la vitamine D avec son médecin, si possible, de voir s'il y a une déficience en vitamine D. Et puis, juste pour la vitamine D.
C'est-à-dire le fer. Oui, c'est possible. Pas prendre beaucoup, c'est très mauvais pour les reins.
Mais il faut vérifier dans le sang, voir s'il y a un manque de fer. Avant de prendre du fer comme ça, il faut aller faire une prise de sang. Mais... Parce que si on peut avoir...
Mais la vitamine D là, que je prends tous les jours, moi, on m'a dit que c'était pour la peau et je dois vous avouer que Je ne sais pas si c'est ça, mais à l'âge que j'ai pas beaucoup de, beaucoup de rides.
Ben, vous avez toujours eu une belle peau et très peu de rides.
Mais ça fait 10 ans, 15 ans que je fais ça. Je n'ai jamais arrêté. Je trouve que c'est très, très bon, effectivement. Mais pour les ongles, je n'ai jamais trouvé. Puis je vais voir le pharmacien. Puis le pharmacien me donne toujours des affaires qui coûtent très cher. Puis ça ne donne rien non plus. Alors, il faudrait vraiment que j'aille faire un test sanguin. Ce serait mieux.
Oui, ce serait mieux d'aller faire un test sanguin pour voir si la vitamine D est à un bon niveau, premièrement, parce que 800 unités internationales par jour, pour certaines personnes, ça peut ne pas être assez. Ah. Il y en a même qui vont jusqu'à 1000 à 5000 unités par jour pour avoir un bon niveau.
Encore alors, là, c'est vraiment... faut monter ça.
Mais ce serait une bonne idée d'avoir faire
elle, elle va ressembler à une belle japonaise, parce que ça va être toute lisse.
Exactement.
Et donc, c'est ça, faut aller voir un médecin, ça peut être une bonne idée juste pour avoir un test sanguin, mais je dois avouer, là, comme sanguin et comme homme, que je me sens interpellé quand on parle de ménopause.
Ah oui?
Ben oui, non, non. Mais je voulais savoir si ça existe-tu, l'andropause, un puis deux, est-ce qu'il existe des moyens avec la naturopathie de venir aider là, ces effets qui viennent là.
Puis, ils n'ont pas de chaleur, eux autres.
Mais qu'est-ce qu'ils ont dans l'andropause? Qu'est-ce qui se passe à l'andropause chez l'homme? Tiens, c'est à votre tour, messieurs,
c'est
là,
dans
de,
votre cours,
de nous dire ce qui se passe là quand.
Ouais, l'andropause, c'est vraiment intéressant. Puis je suis pas encore rendu là, donc ça m'interpelle quand même parce que ça va venir un jour, j'imagine. Donc l'andropause, c'est simple, c'est une baisse
De libido.
Exactement.
Un point, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont si énervés.
Ouais, une baisse de libido, exactement, qui est causée par une baisse de la testostérone, qui est une hormone sexuelle qui est responsable de la gravité de la voix chez l'homme, de l'énergie, de la vitalité sexuelle aussi chez l'homme, et puis de la pilosité. Donc, une baisse de testostérone peut causer chez certains hommes des fois des bouffées de chaleur. Ça arrive, mais c'est rare.
Comment on fait pour compenser
ça? Qu'on leur souhaiterait donc une fois de temps en temps.
Est-ce qu'on peut compenser? Avec, ben là, c'est moi qui ai rendu interpellé.
Oui, bien sûr.
Comment on compense ça?
Oui, au niveau plus naturopathie, ce que j'utilise, c'est plusieurs extraits de plantes, comme par exemple, on a du tribulus qui existe, qui est une plante qui stimule la production de testostérone chez l'homme. On a le fenugrec aussi, qui est très intéressant pour les hommes. Les extraits de maca, le panax ginseng. Et même plus, il y en a vraiment beaucoup sur le marché qui ont un effet très positif sur la production de testostérone chez l'homme. Et encore là, c'est pas nécessairement possible de la rebalancer à 100%, de la remettre à des niveaux comme qu'on avait 20 ans ou 18 ans. Mais ça aide.
Ceci dit, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont dit qu'on avait peut-être trop de testostérone dans notre société. Alors, on verra si c'est une bonne idée à l'en chercher. En tout cas, je pense que Mme Ouimet est heureuse des nouvelles découvertes.
Ben, je vais essayer ça, puis si j'ai des bons ongles, ben, j'irai vous égratigner votre tableau une fois de temps en temps.
Il faut faire la prise de sang. Il faut faire la prise de sang avant. Hein, Daniel, il faut faire la prise de sang.
Merci, David Savard.
Ça me fait plaisir.
Naturopathe.
Daniel Ouimet a plusieurs chapeaux. Il nous a parlé tout à l'heure de sa passion de la peinture et on voyait ses yeux, mesdames, messieurs, qui étaient vraiment brillants. Daniel Ouimet, la thérapie par l'art, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vous-même, vous peignez une toile?
Effectivement, on rentre dans un état second lorsqu'on se met devant une toile blanche. Il y a le problème de la toile blanche, il existe vraiment. Mais lorsque ça part, lorsqu'on a une structure et qu'on part avec les couleurs, c'est extraordinaire. Remarquez, c'est sûr que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est le gros problème de la plupart des gens qui me disent « ben oui, mais j'ai aucun talent pour ça ». Ce n'est pas vrai. Il y a, bien sûr, le côté très scientifique du montage d'une toile, mais il y a l'art automatique où vous vous laissez aller, vous avez envie de mettre un arbre là, vous avez envie de mettre un toit, vous avez envie de mettre un petit bonhomme. Ma mère faisait ça. À 83 ans, elle prenait ses toiles, etc. Elle allait prendre des cours, puis à la fin, elle a décidé que non, elle le ferait elle-même. Et je dois vous avouer que j'ai j'ai encadré chacun de ses cadres parce que c'est magnifique ce qu'elle faisait. Elle a décidé de se laisser aller et elle partait des heures de temps dans la création et c'était magnifique.
Mais vous, c'est arrivé à quel âge?
À 10 ans.
Donc, il y a toujours eu la peinture, même dans les moments où il y avait la radio, le cinéma.
Ah,
vous
oui,
trouviez
toujours
un moment pour aller peindre?
Toujours, toujours, toujours. En fait... très peu de gens savent ça aussi. Quand je cherchais un métier, parce que j'ai décidé de trouver un métier très jeune, à 16 ans, j'ai décidé de devenir dessinatrice de mode. Et de 16 à 18 ans, je prenais mes cours le jour et le soir, j'allais prendre des cours de dessin de mode. Mmh. Et j'ai gradué à 18 ans, j'ai fait 2 ans d'école de nuit, de soir, pour devenir dessinatrice de mode. Et donc, le dessin est rentré là, les proportions, il faut une tête, c'est 7 fois le corps, etc., etc. C'est technique. Alors, j'ai appris ça là, mais ensuite, j'ai voulu continuer. Puis à l'école aussi, j'étais au Collège Marie de France où, quand c'était les sciences, il fallait tout dessiner à la main. Quand on faisait une amibe, il fallait le faire, etc., etc. Donc, c'est devenu une liberté extraordinaire. Et j'ai décidé, effectivement, la peinture est arrivée beaucoup plus tard. J'ai fait tout ce qui s'appelle manuellement, tout ce qui est possible manuellement, de la glaise, n'importe quoi, j'ai tout fait. Mais la peinture est arrivée quand je me suis mariée à 38 ans. Je m'ennuyais et j'ai dit, tiens, je vais prendre des cours. Et j'ai pris des cours pendant 5 ans. Et voyez-vous, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je m'enferme dans mon atelier, je décide de faire une toile et souvent, parce que j'aime le faire le soir, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les émissions que j'aime pas, etc., etc. Ce que j'adore, c'est que je me lève les yeux, puis tout d'un coup, je fais « Oh mon Dieu, il fait clair dehors !» J'ai tout oublié, tout oublié. Et on s'ambitionne tout le temps parce qu'on se dit « Ah oh, ben là, je vais faire la petite maison, puis après ça, je vais arrêter, demain, je vais continuer. » Mais non, après ça, il y a la lumière autour de la petite maison, il y a les herbes autour de la petite maison. « Ah non, mais il y a le ciel est tellement beau. » Et finalement, tu as la finale, tu te dis « Ben oui, mais là, il me reste que le ciel, et c'est ce qui est le plus agréable. »
Il fait chaud. Est-ce que c'est comme rentrer en transe pour vous, c'est-à-dire
exact.
D'aller en méditation par rapport à vous-même
Mais je pense que c'est...
Vous avez une pièce chez vous
Oui,
ça,
oui,
tout
oui,
simplement.
J'ai un atelier, moi. C'est Homer de Serre dans mon sol. Ah oui. Oh, oui, oui, je fais des
Alors,
bijoux.
Alors, donc, rentrez là, c'est quel Daniel Ouimet qu'on retrouve là?
Dernièrement, j'ai donné des cours à des amis à moi. Il y en a une qui m'a dit, je vais me faire opérer, puis je veux absolument avoir du temps. J'ai du temps devant moi et je vais être capable de le faire maintenant. Et elle a exactement la même manie. Maintenant, elle m'a dit, Daniel, je vais être une élève épouvantable parce que je ne peux pas rester en place plus que 2 heures. 2 heures et j'étouffe. Ben, 5 heures après, elle était encore devant sa toile, debout, pas assise, debout, à essayer de comprendre comment elle allait faire sa structure. Et je l'aidais, puis là, je faisais pas sa toile. Je disais, bon, ben là, tu mets du blanc. Mets du blanc. Bon, là, ça ne s'étend pas comme il faut. Viens, je vais te montrer comment faire. Écoute, cette femme, elle est rendue maintenant, elle ne veut faire que ça. Elle n'a jamais tenu un pinceau de sa vie, elle a 70 ans.
Et celle que vous allez, parce que vous faites souvent des voyages, pour aller enseigner la peinture en Floride, vous revenez de la Floride, et vous êtes allée rencontrer... Pas des dizaines de femmes, vous
étiez... Des fois, on est 40.
Ben voilà, c'est ça.
45, 50, 60.
Comment ça se passe dans ce cours-là? Qu'est-ce que vous faites entre femmes? Qu'est-ce qui se parle? Qu'est-ce que vous leur dites en premier? Êtes-vous sévère?
Je suis sévère parce qu'il y en a qui veulent toujours aller plus vite que le professeur. Et à ce moment-là, je leur dis, bon, regardez, c'est raté. Je m'excuse, vous êtes obligés de recommencer. Et je les fais recommencer. Parce que j'ai dit, vous n'avez pas attendu, vous avez le temps, parlez à votre voisine. Je sais qu'on vous aide beaucoup, mais si vous avancez et vous êtes allé trop vite, je vous ai montré ce qu'il fallait faire. Il fallait le faire pas d'un seul coup, il fallait que je sois à côté pour voir. Et puis, je suis sévère parce que j'ai pris le temps, moi, de l'apprendre. J'ai pris le temps de venir pour l'enseigner. Si tu crois que tu es meilleur que le professeur, je m'excuse, ben vas-y, t'as pas besoin de moi, alors. Mais en même temps, si vous saviez le bonheur que c'est, on a du plaisir. Moi, ce que j'apprends surtout aux gens, c'est comment faire des souvenirs à travers une assiette transparente, comment on colle, on fait des collages, on fait de la peinture à travers ça, etc., etc. Et en Floride, c'est un cours qui dure 5 heures. 5 heures où on est tous ensemble, on mange ensemble, on se fait un plaisir fou. Et à la fin, les femmes, j'ai dit, bon, ben là, il y a de la décoration de la finale parce que, bon, il faut mettre de la peinture par-dessus tout ça pour bloquer tout ça, pour que l'assiette devienne moins fragile. Et puis, il faut aussi décorer l'arrière. Alors, je leur montre comment avec des tampons, avec des peintures différentes, on peut faire ou des dentelles ou alors des toutes sortes de choses, on peut faire de la décoration. Et quand elles ont fini, elles m'ont tout envoyé sur Internet leurs œuvres terminées.
C'est beau, c'est
j'ai
beau.
Trouvé ça tellement mignon. J'ai tellement aimé ça. Elles se sont réunies toutes ensemble, puis elles avaient leurs assiettes dans les airs en disant, regarde, Daniel, on a fini.
Daniel,
j'ai trouvé ça tellement le
vous
fun.
Avez parlé de 55 ans de carrière, de vos passions amoureuses. On a eu des livres là-dessus, de vos hauts, vos bas. Est-ce que vous trouvez que la peinture vous a aidé à traverser ou vous aide à traverser les moments moins faciles de votre vie?
Tout ce qui est l'isolement et la fabrication de choses pendant que je suis seule m'aide à passer à travers. Je suis une fille qui, aussitôt que je traverse, je suis dans ma voiture et que je sors de la maison, je ne m'appartiens pas. Je suis à tout le monde parce que je l'ai voulu. J'ai travaillé à ça depuis que j'ai 16 ans. Mais quand je rentre à la maison, oh là, venez pas me chercher. Je m'occupe de moi. Et effectivement, ces deux filles-là ont besoin l'une de l'autre. J'ai besoin de mon énergie que je garde chez moi, que je récupère chez moi à créer. Et quand je suis prête à partir, c'est que je suis rechargée et prête à aller faire le travail.
Voilà, très bien. Donc, on reconnaît qu'il y a une Danielle secrète qui est chez elle, dans sa tanière, avec sa peinture et ses bijoux et sa décoration de
gâteaux. Oui, mes gâteaux et ma petite fille, etc.
Et une Danielle Lumière.
Merci.
Voilà.
Merci.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Allongé dans l'eau bleue, le temps était délicieux, mais nous étions si insoucieux, jamais on pensait aux adieux. Le sable chaud contre ma peau va savoir le vrai du faux. Lorsqu'une histoire s'entame, la mer est calme. C'est un peu plus tard que tout s'enflamme.
La nutrition, on le sait, c'est important pour beaucoup d'étapes de notre vie. Mais entre autres, quand on a un régime, il y a toutes sortes de choses qui peuvent advenir, mais le régime, ça a l'air qu'on n'utilise pas trop le concept de la bonne manière. En tout cas, bref, vous savez à quel point Claudine Larivière peut nous éclairer sur la question. Je rappelle qu'elle est nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour, Claudine.
Bonjour.
Alors, on est en présence de Daniel Ouimet.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour
Daniel.
Bonjour.
Alors, le régime, là, qu'est-ce qu'on devrait dire d'abord sur cette expression fourre-tout et...
régime ou diète d'abord.
Voilà, régime ou diète.
Régime ou diète, on dit. Qu'est-ce qu'on dit?
Oui, bien en fait, c'est que premièrement, régime et diète, ça veut juste dire une façon de s'alimenter. Mais il y a tellement eu du marketing, des gens qui ont utilisé ces concepts-là pour faire justement de l'argent, qu'il y a une connotation très, très péjorative par rapport à ça. Et le problème, c'est que la majorité des régimes ou des diètes vont pas être adaptés à la clientèle, donc vont pas être adaptés à chaque individu, aux besoins de notre corps à nous. Mm-hmm. Et c'est là-dedans, malheureusement, que la plupart des gens vont tomber et il va y avoir des conséquences à ça, justement, du fait que c'est pas adapté à notre situation, donc à nos horaires, à notre rythme de vie, à notre niveau
exact.
De stress, d'activité physique. Oui, c'est ça, c'est pas adapté du tout.
Bon, puis il y a même une petite raison anthropologique, là. On a déjà su presque d'instinct comment s'alimenter, mais on a tellement trafiqué, transformé, etc., que là, maintenant, on s'imagine qu'on peut manger d'une certaine façon qui ne correspond pas, qui correspond pas à notre métabolisme. J'exagère en disant ça. Mais c'est ça. C'est ça.
Oui, mais c'est ça. C'est qu'essentiellement, notre ADN est programmé pour carburer sur certains types ou sur certaines sources d'énergie. Puis, on s'entête beaucoup à vouloir changer cette programmation-là, mais ça n'arrive pas en claquant des doigts. Ça n'arrive pas non plus en quelques semaines, en quelques mois, puis même en quelques années. Ça prend beaucoup de temps à l'ADN lui-même de s'adapter à des changements. Là.
Faut dire que beaucoup de comédiennes se font imposer des poids, puis des manières d'être, là, soyons clairs. Mais dans la nature, ça ne serait pas exactement comme ça que ça se passerait.
Mais Daniel, je crois que vous avez tout essayé. J'ai l'impression que je vous ai rencontré à un moment donné, vous étiez dans une période de jeûne.
Oui, mais j'aimais bien parce que c'est...
C'est ça?
Les deux premières journées, c'est très difficile, puis après, ça va tout seul. Mais j'ai fait les jeûnes, j'ai fait ce que j'aimais beaucoup. Je crois qu'il s'appelait Atkins. On avait le droit à tout ce qui était gras, absolument tout. Tout. Les œufs au bacon, le steak, deux livres avec... Mais absolument aucun sucre. Pas de boisson, pas de... Deux tasses de légumes par jour. Un steak d'une livre avec de la sauce dessus.
Oh non, arrêtez, c'est trop plaisant. C'est beaucoup trop plaisant.
Tout cuire dans le beurre, là. Tout.
Quoi?
Et on perd une livre par jour. Ben oui.
OK. S'il vous plaît, Nadine, expliquez-nous qu'est-ce que c'est le régime Atkins.
Le régime Atkins est très, très restrictif et très sévère. Puis comme beaucoup de diètes qui sont justement popularisées, malheureusement, si on regarde sous la loupe à court terme, il va y avoir des résultats incroyables. Mais quand on commence à regarder plus à moyen et à long terme, il y a des conséquences catastrophiques
exact.
À ça. Il y a des changements qui se passent dans notre corps qui sont tout aussi catastrophiques. Et aussi quand on commence à s'attarder pas seulement sur le poids total sur la balance, mais plutôt à notre composition corporelle, c'est là aussi qu'on voit que ces diètes-là peuvent être vraiment néfastes. Ils vont nous faire perdre les bons tissus qui sont les muscles, par exemple, ils vont nous faire perdre énormément d'eau, et ils vont nous faire préserver et prendre de la masse grasse. Puis, ce qui est complètement contre-productif dans l'atteinte d'un objectif santé, parce que je trouve que Daniel, elle va utiliser sa composition corporelle et non seulement perdre des livres sur la balance, non?
Oui. Puis c'est intéressant que vous le dites, on a l'obsession de la balance, on s'imagine que le chiffre détermine tout, mais c'est pas ça.
Non, j'ai décidé que je ne regarderai plus ma balance.
Bravo!
Exact.
Non, je ne la regarde plus, c'est terminé. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit combien, j'ai dit vous regarderez, mais je vous défends de me le dire.
C'est pas le chiffre.
Ah, c'est sûr que je me sens que je préfère en avoir moins, mais je me sens pas lésée parce que je mange ou je fais très attention malgré tout. Je fais attention à mes deux tasses de légumes, à ma viande, etc. Et pas grasses, etc., etc. Mais oui. Je dois vous avouer qu'il y a, un régime qui m'avait été préconisé, qui a été qui était très bien. C'était très bien, sauf que, oh mon Dieu, il fallait manger 6 fois par jour. Et 6 fois par jour, pour moi, ça veut dire, bon, là, il est 10 heures, il faut que je prenne une protéine, puis il faut que je prenne un fruit, puis là, il est midi, il faut que je prenne ma viande ou mon poisson, puis mes 2 tasses de légumes, puis là, il est 3 heures, il faut que je recommence, puis là, il est 6 heures, il faut que je recommence, puis...
Comment avoir une vie?
Je devenais folle!
Ça finit plus, c'est de l'obsession, on ouvre le frigidaire pendant 6 fois de suite.
Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle de diète protéinée ou quand on parle...
Non, c'est parce que le problème que j'ai, c'est de mélanger ça avec des sucres. Ah. Le moindrement que j'ai un sucre, ça bloque tout. C'est comme du jello à l'intérieur, bingo. Ouais. Bloque tout, puis c'est terminé. Ouais.
Puis c'est un excellent point parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas mélanger les glucides avec les protéines. Il y a des gens qui veulent manger un petit peu plus protéiné, un petit peu moins gras ou un petit peu moins glucides. Puis je pense que quand les proportions demeurent réalistes, selon le fonctionnement du corps humain, il n'y a aucun problème à ça.
Exact.
Moi, dans ma pratique, j'impose aucune façon de faire. Je suis à l'écoute du besoin de mon client, donc, tout autant au niveau physiologique puis au niveau de sa réalité de vie. Donc, si quelqu'un comme Daniel dit « c'est vraiment épuisant de manger 6 repas par jour », ben, essayons de voir comment ça pourrait être un peu moins épuisant parce que à la fin de la journée, j'avoue que c'est une des meilleures stratégies pour justement vraiment accélérer le métabolisme puis bien carburer à travers la journée et éviter de surmanger au repas. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, j'y tiens beaucoup de manger aux 2-3 heures pendant la journée. Mais après ça, il s'agit juste d'être stratégique dans la logistique de la réalité de la personne.
Mais vous arrivez avec un autre problème. C'est que moi, manger, c'est le plaisir d'être avec les autres. Mm-hmm. Si je suis seule, j'ai pas envie de manger. Je n'ai même pas faim, j'oublie de manger. Il est midi, il est rendu 3 heures de l'après-midi. Oh mon Dieu, j'ai oublié de manger. Puis là, je me dis, ben si je mange maintenant, je vais être obligée de manger à 9 heures le soir. 9 heures le soir, non, je veux pas manger à 9 heures le soir. Alors finalement, je ne fais qu'un repas qui est à 4 heures ou 5 heures l'après-midi parce que ça fait mon midi et mon soir. Et c'est comme ça tout le temps. J'haïs manger seule. Ouais. Je déteste ça. Ouais. J'haïs.
Oui, vous disiez que vous êtes une mangeuse sociale.
Je suis une mangeuse sociale. Si tu arrives à la maison, mon Dieu, je vais te faire un repas gargantuesque avec des petites affaires mitonnées. Mais seule, la canne, je l'ouvre. Je mets du citron dans la canne, puis je mange la canne puis je jette la canne.
C'est plate de manger ça.
Ah, je déteste ça. Ma sœur, c'est le contraire. Ma sœur, il faut qu'elle se mette son plat, sa bougie, son truc. Elle se fait un plat qui va durer 2 heures. Elle va calculer pour ses portions de légumes. Écoute, je comprends pas ma sœur.
Ouais. Je comprends. Ça dépend tellement de chacun d'entre nous. Il y a des gens qui préfèrent manger seul parce qu'ils veulent, c'est purement par besoin. C'est vraiment par mode survie. Puis il y a d'autres personnes, c'est super social. C'est trouver un équilibre dans tout ça. C'est toujours de trouver la stratégie qui va fonctionner pour nous. Donc, si on est des mangeurs sociaux, super, pas de problème. Mais il y a d'autres moments dans la journée où il faut quand même manger pour répondre à des besoins de survie. Donc, comment est-ce qu'on met ça en place? Je pense que ce soit une problématique parce qu'on ne veut pas cuisiner pendant 2 heures. Mais c'est ça. Puis des fois, il faut juste... Bon, il faut que je mange. Fait que...
Dites-moi!
Je vais faire un petit repas, puis il va falloir que je mange tout seul cette fois-ci.
Je vais vous demander quelque chose.
Oui, allez.
Bon, ça me ferait plaisir de savoir. Moi, naturellement, quand je vais faire du shopping, je prends ma viande très, très maigre. J'adore le poulet. Alors, bon, je prends du poulet, je prends du poisson, les crevettes, des trucs comme ça. Et puis, à un moment donné, je me dis, ben là, j'aurais faim, mais pas pour un gros repas. Juste quelque chose qui serait soutenant et qui pourrait me tenir jusqu'à 6 heures le soir. Quelle serait la chose que vous me suggérez d'avoir à portée de la main qui soit rapide à développer ou à préparer, que je pourrais manger puis qui ne serait pas engraissant? Tu sais, comme... Il y en a qui me disent un morceau de fromage avec un craquelin, mais ça, une minute, là, ça, c'est une fois, là, je pense les autres fois. Quelles sont les choses que je pourrais avoir?
Ça peut vraiment être n'importe quoi que vous aimez. Ça peut être des fruits avec des noix, des fruits séchés avec des noix. Ça peut être des fruits avec un produit laitier comme le fromage ou avec un yogourt. Ça peut être un bol de céréales. Ça peut être un yogourt grec avec des craquelins à côté. Ça peut être pas. Ça peut être aussi carrément une mini-portion d'un repas que vous avez déjà préparé, ou ça peut être la moitié d'une sandwich. Ça peut être vraiment n'importe quoi. En autant qu'il y a une source de protéines que vous êtes capable de... Et là, vous m'avez dit qu'avec les glucides, ça ne marche pas très bien, les protéines, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Fait que dans le fond, c'est de prendre peut-être des légumes, des crudités avec un morceau de fromage ou des crudités avec des noix. Ça peut être vraiment n'importe quoi.
Oui, parce que c'est ce que je néglige à chaque fois. Puis là, j'ai faim. Puis là, je me dis, ben écoute, c'est pas encore l'heure du repas. Ben je vais attendre.
Ben non, c'est ça. Ouais. Tu prends juste des légumes avec une trempette d'humus ou avec une trempette à base de yogourt grec. Vraiment aller chercher quelque chose qui va soutenir aussi. Pas juste quelque chose qui va nous remplir, mais qui n'a pas beaucoup de calories. En fait, souvent, cette erreur-là, on veut juste boucher un trou. Mais en fait, c'est que si on a faim en ce moment, on a vraiment avantage à nourrir notre corps avec des bonnes calories.
Et le plus drôle, c'est que disons que j'ai faim, je prends une pomme, puis j'adore les pommes vertes. Mais quand je prends une pomme, j'ai encore plus faim par la suite.
Moi aussi, j'ai toujours trouvé ça. Ça ne coupe pas la faim, la pomme?
Non. Voilà. Et comme les sucres, là, ils viennent chatouiller notre estomac. Puis là, ils disent, il me semble que j'en veux plus.
C'est vrai. Ça ouvre l'appétit, alors. Est-ce qu'une pomme peut nous ouvrir l'appétit davantage?
Écoute, il faudrait vraiment que je regarde peut-être les études qui ont été faites là-dessus. Pourquoi ça ouvre l'appétit? Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça.
C'est vrai.
Mais l'important, il faut se rappeler de ça, vous le dites souvent, Claudine, c'est que on est différents les uns les autres. Il faut voir ce qui nous correspond. Il faut essayer. Il faut arrêter de penser qu'est-ce qu'elle a de marcher pour des millions de personnes. Marche aussi pour nous.
J'ai l'impression que l'histoire, il n'y a pas de diète miracle. Il faut juste tout le temps bien s'alimenter au lieu de penser qu'on va avoir... Parce que c'est vrai que c'est attirant de dire qu'on peut prendre perdre une livre par jour, mais sinon, après une semaine, on en prend deux.
Ou les années plus tard.
C'est ça. C'est clairement quelque chose qui ne fonctionne pas.
Le corps se souvient.
Souvenons-nous des paroles de ces femmes. Claudine Larivière, rappelons que vous êtes nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Merci beaucoup.
Exact.
Merci Claudine. Alors, on va tout de suite rejoindre Dr Barouel. Dr Barouel, on a une autre question. C'est vrai qu'avec l'âge, bon, on a parlé des hormones, on a parlé de la ménopause et des hormones, on a aussi parlé de l'andropause, mais il y a aussi avec l'âge qu'on a besoin de dormir, de faire des siestes, mais est-ce qu'on a autant besoin d'heures pour se reposer? C'est-à-dire qu'on parle toujours d'un 8 heures, mais quand on vieillit, a-t-on autant besoin de dormir?
En fait, on a besoin de dormir à peu près autant que quand on est adulte, peut-être un petit peu moins. Mais c'est surtout que le rythme du sommeil est un
peu... Ça va, docteur?
Comment?
On vous a perdu.
Alors, j'ai entendu, vous avez dit, un petit peu moins de sommeil quand on vieillit?
Un petit peu moins de sommeil. Quand on vieillit, on a quand même besoin de moins de sommeil. Mais par contre, c'est le cycle du sommeil qui est désorganisé. Il est classique de se réveiller en vieillissant deux fois par nuit, au point que certains se mettent à lire des livres, etc.
Il y a des gens qui se réveillent et ça y est, c'est trop.
Pour lire un livre, pour lire un journal, pour lire, etc. Ils ont besoin d'une petite heure de lecture ou de repos tranquillement pour simplement replonger dans leur sommeil.
Exact.
Mais du coup, voilà. Du coup, il faut quand même rattraper ça dans la journée. Et donc, on fait des petites siestes. Et c'est pas mauvais. Alors, il faut les faire. Oui.
Daniel Wimel, vous faites des siestes?
Oui, je fais des siestes. Non, en fait, je peux très, très bien m'installer sur un divan et prendre 10 minutes pour moi. Et je pars dans une espèce de troisième dimension et je me relève et je suis requinquée. J'ai pas de problème, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que plusieurs personnes nous disent je prends 10 minutes. J'entends beaucoup de gens autour de moi dire moi je prends 15 minutes puis je récupère 3 heures de sommeil. Est-ce que c'est vrai, docteur Barouel?
C'est vrai que de faire 10 minutes d'une petite sieste comme ça, ça vous donne l'impression d'avoir dormi une heure ou deux. On se retrouve avec un tonus qui est bien meilleur qu'avant. C'est vrai, ça remet vraiment en forme.
Mais l'impression ou véritablement?
Non, réellement. Vous pouvez faire, alors vous pouvez en faire même deux dans la journée. L'important, c'est simplement de les faire quand on est fatigué, quand on se sent fatigué, quand on a vraiment besoin. Et il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Il faut vraiment qu'elles soient de 10-20 minutes maximum.
Et là, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que Bien sûr, vous allez probablement me dire que ça dépend de chaque personne, chaque individu, parce que j'ai une amie, moi, elle, il faut qu'elle dorme 12 heures par jour, sinon elle n'est pas bien. Mais oui. Moi, j'ai besoin de très, 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 très peu de sommeil. 5 heures, aucun problème. Et les gens me disent, ben non, ça n'a pas de sens, Daniel, il faut que tu récupères quelque part. Mais moi, je me sens très bien. 5 heures, j'en ai pas besoin de plus. Moi, je m'excuse. Oh.
Mais 5 heures en se levant ou pas?
Ah non, non, pas me levant.
C'est 5 heures continue.
Je me couche à 2 heures le matin, je me lève à 8. Bon, c'est aussi simple que ça.
Ah ouais. Voilà, donc, eh bien, vous êtes juste dans les 7, limites, vraiment minimum. Hein. Ça fait 6 heures, et c'est juste dans les limites minimum. Mm. Il faut vraiment avoir un minimum de 6 heures, en tout cas par 24 heures. Donc, vous arrivez à faire une nuit qui est presque complète.
Oh non, si j'ai 8 heures, je suis courbaturée, je suis de mauvaise humeur. c'est fou, hein? Ah non, je ne peux pas.
Alors, évitez.
Ouais,
évitez pour votre entourage.
Oh non, j'en ai pas d'entourage, justement, c'est peut-être pour ça. Pas d'entourage, monsieur, c'est
elle bien. A écrit un livre là-dessus.
Il y a eu plusieurs entourages. Il y a eu beaucoup d'entourages et puis ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'entourage. Et je suis bien.
Elle fait des siestes toute seule maintenant.
Elle est pas tranquille. Bon.
Enfin, je l'ai choisi, mes siestes.
Elle ne fait pas des siestes coquines.
Voilà, exact.
Bon. En tout cas, c'est vrai que le sommeil, c'est exactement comme l'appétit. Il y a des gens qui ont besoin de sommeil, comme il y a des gens qui ont besoin de manger plus que d'autres. C'est exactement la même chose.
Ah bon, parfait. Voilà. Effectivement, vous avez raison. Parfois, il m'arrive, dans le milieu de la nuit, d'être obligée de me réveiller. Et là, je regarde, je prends un livre et je m'endors dessus. Hein. Je me réveille le matin avec le livre dans les mains. Et je dors et j'ai le livre exactement dans la même position et j'ai dormi.
Mais Daniel, vous prenez un livre parce que vous en avez marre de ne pas dormir ou tout
non,
simplement
pas du tout, parce que
vous avez eu l'impression que c'était terminé, vous avez assez dormir, faut que je passe à autre chose.
Non, parce que je sais que je ne me rendormirai pas parce que la tête travaille et puis je pense à toutes sortes de trucs. Ouais. Alors je me dis, au lieu de penser à mes choses à moi, si je tombe dans le livre, qui est un plaisir, ben voilà, je m'endors au bout d'une demi-heure et puis c'est terminé. Voilà. Je me rendors.
D'où l'expression livre de chevet.
Voilà. Exactement.
Ah, c'est bien. C'est vrai.
Ben
oui, c'est vrai que ça vient de là. Alors, on va tout de suite.
On oserait même poser la question à Dr. Barouel parce que vous aviez une question aussi sur un autre sujet à lui poser au docteur concernant, je pense, la prise de médicaments et.
Ah oui, pour la haute pression. Voilà. C'est parce que j'ai une tendance à la haute pression. Une tendance évidente parce qu'un jour, je me suis ramassée à l'hôpital très tôt le matin parce que j'étais énervée. Il fallait que je fasse une émission en direct. Et puis, bon, j'avais une extinction de voix. Tout ça pour vous dire que la dame me dit « Oh, je vais prendre votre pression en attendant. » Et elle me dit « Écoutez, Madame Ouimet, je vous garde. Vous faites 220. » Mais je me sentais très bien. Je me sentais vraiment, à part être un peu énervée, je me sentais très, très, très bien. Bon, ben, je lui ai dit, non, écoutez, c'est une émission en direct, c'est d'ailleurs avec un médecin, je vais aller faire l'émission, mais je vous promets qu'après, je m'en vais directement voir un médecin pour me faire prescrire quelque chose pour la pression. Il m'a prescrit des médicaments, mais j'ai jamais été aussi malade de ma vie. Je me promenais, j'étais étourdie, je me ramassais sur les murs, je manquais les marches, ça a été l'enfer. Et je me suis dit, ben non, je vais arrêter ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est vraiment mauvais que j'aie arrêté puis que je...
C'est pas très bon d'arrêter quand on a en fait fait comme ça. Alors, il faudrait savoir aussi, est-ce que vous faites souvent des pics de tension comme
oui,
ça?
Oui, j'en
quand
fais.
On s'énerve, on a tendance à en faire.
Ouais, oui, effectivement, mais j'en ai toujours un petit peu de haute tension parce que j'ai pris un appareil finalement et je vérifie une fois de temps en temps quand je suis un peu fatiguée ou j'en suis rendue. J'en fais toujours un petit peu, mais pas énormément. Mais quand je suis vraiment, vraiment énervée, là, ça monte. Oui, ça monte.
Donc, ça, il faudrait. Le traitement de la haute pression, c'est quand même une prévention contre les maladies cardiaques. C'est intéressant pour cette raison de suivre un traitement, même s'il est... Mais il ne faut pas qu'il soit évidemment trop contraignant, parce que sinon, c'est difficile à suivre. Mais peut-être qu'il était très fort. C'est pour ça aussi.
Il était trop fort, je crois.
Parce que si vous aviez 220 de pression, c'est énorme.
Hein, oui, je sais que c'est énorme. On m'a dit, je vous garde, je ne vous laisse pas partir.
Oui, c'est une bonne réaction, en fait. Hein.
Ouais.
Mais après, le traitement est forcément un peu violent pour descendre, mais après, on peut réviser le traitement. Une fois qu'on a passé le cap le plus aigu, on révise le traitement et on l'adapte bien pour avoir une tension régulière, une tension avec des médicaments qui sont bien supportés. Mais il est important de faire baisser sa pression, parce qu'en fait, n'oubliez pas que finalement, ce n'est que de la tuyauterie, hein, les vaisseaux.
C'est vrai.
C'est un petit peu comme dans notre plomberie à la maison. Si on fait une pression, si on triple ou on double la pression, il peut y avoir des joints qui s'abîment.
Voilà, il y a un risque, il faut faire attention. Mais vous parlez de la posture qu'il faut avoir avec son médecin. Daniel, vous avez eu un traitement qui était difficile avec des symptômes trop importants. On parle avec son médecin, parce qu'à ce moment-là, on réajuste la dose, fait autre chose. Mais on n'a pas tous Dr Baruel pour nous aider.
En tout cas, attentif et
tourné vers son patient.
Qui prend plus que 5 minutes.
Alors, merci Dr Baruel pour votre soutien habituel.
Je vous en prie.
Rappelons que vous êtes médecin de famille et stomatologue.
Merci infiniment. Merci.
Merci, au revoir.
Baruel.
Pour réentendre les entrevues et l'ensemble de C'est bon pour la santé, rendez-vous sur canalm.vuzevoix.com.
Avec toute cette équipe et Sophie Stanké.
Benoît Racette.
Et on s'est entretenu avec Daniel Ouimet tout au long de l'émission. Daniel, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez rebondir? Est-ce quelque chose qui vous a frappé davantage, enfin, sans vous faire mal, là, dans toute cette émission, dans tous ces sujets abordés?
Le plaisir d'apprendre des choses nouvelles. Vous savez, on se pose toujours des questions, puis on ne prend pas le temps d'avoir les réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est... Vous savez, juste pour les ongles, je vais à la pharmacie, c'est sur le moment présent, il faudrait qu'on me trouve quelque chose, on m'offre un truc à 45-50 $ la dose en disant, vous allez voir, ça va bien aller. Puis tu te dis finalement, ben écoute, j'ai jamais vraiment demandé quel était mon problème réel. Mm-hmm. On prend le général. Et c'est ça, c'est que ce qui m'a touchée dans cette approche que vous avez, c'est que tout était... Et finalement, oui, bien sûr, il y a des réponses, mais tout est individuel, finalement.
Oui.
Ce que vous donnez comme recette à quelqu'un ne veut pas dire que c'est nécessairement fait pour vous et vice-versa. Mais par contre, on sait qu'il faut rechercher et l'appliquer à soi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais,
c'est ça qui est très
essaie de faire une santé ici à échelle humaine. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Puis on a réussi, grâce à vous, avec vos préoccupations santé. Mm-hmm. Et avant de se quitter, peut-être une toute petite chose qui serait importante pour vous, là, qu'on devrait retenir encore plus par-dessus tout sur la Danielle en forme, battante, lumineuse comme vous êtes, avec sa part d'ombre qui se matérialise dans l'art, etc.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire en finale?
Ben, il faudrait simplement dire que vieillir n'est pas, n'est pas une tare. C'est très drôle parce que je me suis jamais autant sentie en possession de toutes mes convictions que maintenant.
Ouais.
Vous savez, toutes les guerres que j'ai faites dans ma vie, pour en arriver à 70 ans, toutes ces guerres ont servi à quelque chose aujourd'hui, justement, c'est à m'assagir, puis à dire, pas m'assagir, m'assagir en ce sens que ça m'a...
Tranquillisé.
C'est plus une bataille. C'est acquis maintenant. C'est acquis. J'ai des convictions qui sont... Vous allez y arriver, vous allez voir. Il y en a qui se disent, oh non, c'est une tare. Tout part, les cheveux tombent, la peau... Oui, bien sûr, on a tout ça. On a des rides, on a des taches partout. La peau n'est pas ce qu'elle est. Mais mon Dieu, la tête est tellement mieux.
Elle est présente. Elle est présente.
La tête est tellement mieux.
Mais la guerrière est toujours là.
On a cherché toute notre vie à avoir une tête en repos avec soi-même. Mais la guerrière, elle est là, bien
sûr.
Elle est là.
Jusqu'à la fin.
Oui, exact.
Merci. Voilà. Alors, on va dire merci aussi à nos chroniqueuses et chroniqueurs qui ont été aujourd'hui Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, David Savard, naturopathe, et Dr François Baruel, médecin de famille et stomatologue.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon à la recherche.
Ici Sophie Stanké, qu'on se le dise, les arts de la toile à l'écran, ça fait du bien.
C'est Benoît Racette aussi qui vous le dit. Et tout le monde ensemble, on dit...
C'est bon pour la santé!